Premier album Anxious Avoidant le 13 mai à Lanty. S'inspirant des sons colorés et incomparables du début des années 2000, Anxious Avoidant est parsemé de ballades mielleuses et d'hymnes pop-punk. Rendez-vous le 13 mai à Lanty. Billets en vente sur lepointdevente.com.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Voyons, comment ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain!
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur cheese.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute!
Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leurs sujets d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du jour. Bonne écoute.
Bon midi à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurie Roy, qui est candidate à la maîtrise en psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais au pavillon de Québec. Puis également aussi une intervenante psychosociale qui est passionnée puis qui est engagée auprès de différentes clientèles en situation de vulnérabilité et de marginalité, dont en fait dans l'emploi qu'elle occupe actuellement depuis maintenant 5 ans comme coordonnatrice du projet Prévention Jeunesse au projet Intervention Prostitution Québec, qu'on appelle aussi communément le PIPQ. Donc, bienvenue Laurie à l'émission, en fait, qui est la dernière de la saison là, de À ta santé.
Merci.
Donc, en fait, premièrement, Laurie, peux-tu nous dire un peu plus le rôle d'un psychoéducateur? On n'entend pas tout le temps ça, puis surtout dans le domaine de la santé. Puis c'est quoi ton parcours à toi, le professionnel, jusqu'à maintenant?
Bien, ça m'a fait plaisir. En fait, ben moi, je suis entrée à l'UQTR, au baccalauréat en psychoéducation au pavillon de Québec en septembre 2017. Donc, ça fait déjà 5 ans. Puis, je vais terminer ma maîtrise là, dans ce même domaine-là. Je risque de terminer autour d'août 2022 là, avec mon mémoire. Donc, très prochainement. En dehors de ça, bien, c'est sûr que parallèlement, j'ai cumulé plusieurs autres emplois là, tout au long de mes études en psychoéducation. Donc, notamment la gardienne éducatrice qu'on appelle là, pour les petits répits. Donc, ça, c'est un milieu où est-ce qu'on offre du répit puis de l'accompagnement à domicile, autant aux familles dans le besoin là, qu'à d'autres clientèles. J'ai aussi été intervenante de milieu avec l'équipe psychosociale pour la YWCA de Québec. Donc ça, c'est vraiment de l'intervention ciblée, je ne sais pas si tu connais ça, mais vraiment en réduction des méfaits, en prévention, mm-hmm. Auprès des femmes en situation d'itinérance ou encore ceux qui sont à risque d'eux. Ça fait que c'est vraiment un milieu d'hébergement puis d'accompagnement là, dans la relocalisation, aussi la réinsertion, des hébergements d'urgence. Donc, j'ai été quand même vraiment longtemps là-bas. Puis finalement, là, ben, depuis maintenant 5 ans, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, là, ben, je suis principalement intervenante psychosociale pour le PIQ, donc Projet Intervention Prostitution Québec, c'est un organisme, là, beaucoup de choses, mais qui œuvre auprès en fait de clientèle qui œuvre dans différentes dynamiques prostitutionnelles. Puis j'ai agi à divers types d'emplois, donc notamment intervenante de milieu de vie, encore une fois, travailleuse de rue pour les projets porte-clés et clés en main, dans une coop populaire là, justement en itinérance ou en hébergement. Puis actuellement, là, je partage le poste de coordinatrice de prévention jeunesse. C'est vraiment l'expérience sexuelle puis la prostitution juvénile. Donc, on développe vraiment un filet de sécurité puis on fait la coordination de ce beau projet-là. Donc ça, c'est plus au niveau du parcours. Et là,
donc, très varié, si je comprends bien, mais toujours en lien avec les populations plus vulnérables.
Exactement. Puis à tous ces titres-là, là, j'étais pas psychoéducatrice. Il faut comprendre que dans le fond, nous, en psychoéducation, là, on fait un baccalauréat, puis c'est obligation d'avoir une maîtrise pour pouvoir avoir le titre. Donc, j'étais vraiment intervenante communautaire ou intervenante psychosociale. Donc, j'avais pas le titre de psychoéducatrice et je ne l'ai pas actuellement. Je vais l'avoir éventuellement, quoique j'ai accumulé là, 2 stages dans le domaine quand même, précisément. Mmh. Ta seconde question, là, c'était lié au coup de capot dans le domaine de la santé, hein?
Exactement.
Donc, je pense que, tu vois, je ne sais pas pour toi, c'est clair ce qu'on fait en psychoéducation. Je pourrais commencer par un peu d'écrire.
Non, c'est ça. Je pense que ce serait intéressant là, pour les auditeurs, justement, okay. Qui sont peut-être plus, qui ont une vision plus classique là, de la première ligne, par exemple. Mais comme, c'est quoi le rôle du psychoéducateur, là, justement, dans tout ça?
Fait que pas nécessairement en santé, mais grossièrement, le rôle du psychoéducateur, peu importe le milieu. Mais notre majeur, là, ça le dit un petit peu, c'est les difficultés pour les troubles d'adaptation. Fait qu'on est un petit peu comme le professionnel du fonctionnement adaptatif. On va vraiment s'intéresser au dépistage, à l'évaluation, à l'accompagnement d'individus dans leur fonctionnement adaptatif. Ça peut tant être au plan personnel, là, vraiment, qu'en interaction avec son environnement. On va vraiment viser là, le développement des compétences, des capacités chez la personne, vraiment dans le but qu'elle soit en mesure là, de s'adapter dans son milieu de vie. Elle soit aussi en mesure d'optimiser son autonomie, en misant sur ses forces. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et que je vais mettre de l'avant. Là. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les forces de la personne, mais aussi les forces de l'entourage de la personne ou de son milieu. Donc, ça, c'est très important. On travaille aussi étroitement avec les autres partenaires, d'autres professionnels, comme par exemple, justement, les médecins. Parce que, en fait, quand on a un individu, âge confondu, hein, parce qu'en intervention, on peut vraiment intervenir de la naissance jusqu'au décès. Contrairement à ce qu'on pense, là, souvent on entend les psychoéducateurs, ça travaille auprès des enfants, là, mais c'est très large. Quand un individu va vivre une situation d'inadaptation, ben en fait, il est pas rare que plusieurs sphères vont être touchées. Hein. Donc, on parle par exemple de la santé mentale, justement, la santé physique, la vie familiale, la vie professionnelle, etc. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui sont présents et qui peuvent être vraiment multipliés. Donc, on va vraiment travailler en collaboration puis en avec différents corps de métiers psychosociaux, mais médicaux aussi. Voilà, ça, c'est vraiment une majeure. Okay. Puis, une grande partie de notre mandat consiste justement à conseiller puis à accompagner les autres intervenants qui vont graviter autour de la personne en difficulté d'adaptation. Ça, on l'appelle dans le jargon le rôle conseil, en fait. C'est ça. En santé, là, parce que ta question est quand même visée sur la santé, on a beaucoup, beaucoup de rôles, mais c'est un petit peu difficile de répondre, mais je dirais que les rôles peuvent être multiples. En cas précis des établissements en soins de santé, un petit peu comme les hôpitaux, mais on va voir plus régulièrement les psychoéducateurs dans des unités en santé mentale, en psychiatrie, en psychiatrie, au CLSC aussi, en centre de réadaptation. On voit aussi là, dans des centres de jeunesse qu'on appelait anciennement, qui est déficience intellectuelle, psychomanie, dépendance aussi. Donc, très multiple, très varié, contrairement à ce qu'on voit là, souvent ou qu'on entend là, de la psychoéducation.
Mm-hmm. Donc, c'est super important. En fait, on peut voir que votre rôle est essentiel à plusieurs niveaux.
Ben oui. Puis, en fait, pour ma paroisse.
Ben oui, j'imagine. Puis, en fait, Laurie, ça m'amène à ma prochaine question. Si on regarde un petit peu les statistiques actuelles, là, selon justement l'Institut national de santé publique, bien, on se rend compte qu'il y a près d'un adulte sur 5 qui a ou aurait déjà souffert d'un trouble mental comme de l'anxiété, de la dépression. Puis pourtant, la santé mentale demeure encore un sujet tabou, puis surtout le mal-aimé de la médecine, par exemple, la médecine moderne qu'on connaît. Plus encore, même selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ce qu'on appelle, les troubles mentaux, plus particulièrement la dépression, représenteraient, là, en fait, d'ici 2030, la principale cause de morbidité dans le monde. Ce qui est vraiment... c'est des données qui sont assez choquantes, là, je dois dire. On en parle quand même peu. Quoique depuis quelques années, on tente à parler un petit peu plus de la santé mentale, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Puis même que Santé Canada évaluait que les coûts liés par année pour la santé mentale s'élevaient à 14,4 milliards de dollars. Puis ça, c'est seulement en 2001. On peut penser qu'avec notamment la pandémie, ça a dû vraiment augmenter encore depuis. Donc, comment tu crois que justement le rôle du psychoéducateur devrait être davantage valorisé en première ligne pour tenter de réduire finalement de façon considérable ces statistiques puis d'avoir une approche qui est un petit peu plus long terme là, de la santé mentale? C'est une grosse question, mais j'imagine que c'est ton opinion de psychoéducateur.
Ben, oui, Vraiment, en fait, c'est vraiment une grosse question, puis je la pose vraiment très souvent. Mais ben, en tout cas, tu me permets un petit peu de rêver, puis de cacher ma paroisse. Tous les psychoéducateurs, mais je parle aussi peut-être au nom de d'autres acteurs psychosociaux, puis même les instances, on a des grands rôles à jouer. Puis, utopiquement, mettons, là, ben, je pense qu'on devrait tous avoir un acteur psychosocial de référence, un psychologue, un psychoéducateur, un éducateur spécialisé, vraiment pour notre santé mentale. Bon, au même titre là, qu'on a un médecin de famille, hein, qui, ben, ceux qui en ont, à qui se référer là, vraiment pour nos besoins qui sont liés à la santé physique. Fait que, tu sais, moi, j'espère vraiment, là, ce serait vraiment mon grand rêve, celui de beaucoup de mes collègues là, dans les discussions de corridor que j'ai. Donc, vraiment, les acteurs psychosociaux sont les experts pour la santé mentale. Je demande encore un petit peu pourquoi là, on se réfère aux acteurs médicaux pour ce type de difficultés. En plus, c'est un peu votre bête noire, là, tu sais, ça vous gruge du temps aussi, puis tout ça, c'est pas vous les experts, mais on vous demande de l'aide. Donc, moi, uniquement, c'est qu'on est. Un médecin traitant, puis qu'on ait aussi un intervenant psychosocial traitant. Mais ça, c'est utopiquement. Là, ta question demande un petit peu plus de réalisme. Là, fait que faut comprendre, en fait, que contrairement à les acteurs médicaux, ben, nous, on passe beaucoup plus de temps avec les usagers ou les patients, là, c'est selon. Puis qu'on les voit vraiment dans leur quotidien. Hein. Nous, qu'on connaît vraiment les proches, le milieu, l'emploi. On connaît leurs chiens, là, et où est-ce qu'ils partent en vacances l'été. Fait que, en fait, on connaît beaucoup ces personnes-là, puis on a donc vraiment un lien privilégié avec eux. Donc, on pourrait, là, toujours avec le consentement de la personne, on s'entend, en premier, je pense, avoir vraiment un rôle d'information, de courroie de transmission entre le système de santé puis la personne, pour pouvoir vraiment peut-être adapter même les interventions médicales qui sont proposées auprès de cette personne-là puis son entourage. Fait que, tu sais, c'est la première chose que je verrais. Dans un mot d'idée, je pense que vraiment d'assurer un large filet de sécurité autour du patient là, en santé physique, en misant peut-être vraiment sur son entourage, puis en le mettant en contact avec même, il y a déjà beaucoup ça là, avec des organismes qui sont communautaires, qui sont adaptés à la situation. On va éviter en fait que le seul point de référence pour obtenir de l'aide, ce soit, par exemple, les médecins de famille, là, avec notre système bien loadé, mais tu sais, beaucoup d'autres organismes et moyens qui ne sont pas connus. Donc, en psychoéducation, on met vraiment ça de l'avant, mais je pense que c'est très généralisé dans tous les acteurs psychosociaux. Là, j'avais réfléchi à ça aussi. Vous savez, en fait, on va privilégier en psychoéducation l'action sur le terrain, donc directement dans le milieu de la personne, de la personne qu'on accompagne. Donc, on est vraiment présent dans leur quotidien, qui nous permet, je pense, un petit peu d'éviter ou de diminuer le phénomène de la porte tournante. On voit trop régulièrement là, que nous, on peut faire vraiment l'évaluation des besoins là, directement avec la personne. On peut vraiment développer avec eux une alliance qui est thérapeutique, puis même avec son entourage, puis sur le long cours, directement à domicile en plus. Donc, moi, je sais que vous voyez souvent les patients 15-30 minutes, hein, tandis que nous, on va vraiment être là très, très longtemps. Donc, on pourrait peut-être établir vraiment des plans stratégiques là, en prévention ou en réadaptation. Donc, peut-être qu'on pourrait permettre justement au système, on est peut-être la solution pour soulager ou pour diminuer, ou on l'entend, là, déloader la surcharge des intervenants médicaux, comme les médecins, les infirmières, les chirurgiens, etc. Donc, à la bande, en évitant un peu la porte tournante. Je ne sais pas si les gens sont familiers, mais c'est un peu le principe de toujours retourner à l'hôpital et de faire retourner à la maison. Retourner à l'hôpital, se retourner à la maison, c'est parce que les gens, leur réflexe, c'est d'aller vers le système de santé classique, physique, alors qu'ils ont des mots qui sont plus sociaux ou mentaux. Mm-hmm.
Puis, selon toi, en fait, je te pose une petite question au travers, là, mais est-ce que tu es capable d'expliquer un peu ce manque-là, justement, du rôle du psychoéducateur dans le domaine de la santé? Tu as l'air à dire que ça pourrait quand même aider justement à décharger le système. Donc, est-ce que tu as des pistes de solutions ou des hypothèses qui pourraient expliquer pourquoi on mise peu là-dessus actuellement?
Oui. Mais d'abord, tu voudrais un petit peu des ressources ou des outils, là.
Ben, en fait, pourquoi le gouvernement décide de ne pas tant investir là-dedans, ou pourquoi on mais pas en place justement des cliniques qui seraient un petit peu plus multiprofessionnelles avec un psychoéducateur?
J'ai beaucoup de temps en tête, mais celle qui me vient peut-être, c'est peut-être un peu plus au niveau des professionnels, donc comment outiller vraiment les professionnels de la santé en général. Mm-hmm. Donc, peut-être toute la notion un petit peu de d'oser dire qu'on ne sait pas, hein, puis d'oser dire qu'on n'a pas les réponses à tout, puis d'aller vraiment chercher les réponses ou de référer par les bons professionnels aux besoins en santé mentale. On est déjà dans quelque chose qui serait à faire, pour outiller vraiment le système, dont les psychoéducateurs, mais ça peut être d'autres. Je pense aussi que les acteurs médicaux, ils devraient vraiment davantage venir à la rencontre, en fait, d'individus qui vont souffrir de difficultés là, psychologiques pour utiliser, vraiment généraliser leur expérience dans leur pratique. Mais aussi de pouvoir briser là, certains préjugés là, à l'égard des populations souvent vulnérables ou marginalisées. Je pense qu'il y a beaucoup de toute cette notion-là qui est à penser. Vraiment, aussi d'optimiser la connaissance puis la démystification hein, des rôles de chacun pour pouvoir mieux repérer et mieux développer le filet de sécurité auprès des individus. Donc, exemple, moi, je ne sais absolument rien en santé physique. Je ne jouerai pas l'experte en santé physique. Je me réfère aux différentes cliniques communautaires, par exemple la clinique SPOT ici à Québec, justement, qui serait un bon levier pour ces gens-là, aux infirmières communautaires, aux urgences, aux CLSC en cas de besoin là, lié à la difficulté physique. Donc, je ne prends pas le rôle sur mes épaules là, pour m'assurer justement de ne pas nuire à la personne. Je vais vraiment l'accompagner dans les différents services là, parce que c'est ça mon rôle, l'accompagnement social. Je pense qu'il y a tous ces outils-là là, qui sont vraiment nécessaires.
Puis, en fait, là, on l'a mentionné tout à l'heure, tu as quand même un intérêt particulier pour les populations, disons, plus vulnérables ou même marginalisées. Puis, ça répond aussi à ton titre là, de psychoéducatrice. Puis, comment, en fait, cette partie de la population qui est justement plus vulnérable va être encore plus à risque de souffrir de troubles dépressifs, mais aussi d'adaptation?
De plusieurs manières. En fait, de manière générale, hein, les populations vulnérables et marginalisées sont celles qui sont le plus stigmatisées. Donc, le mot d'ordre, c'est vraiment la stigmatisation. C'est justement un motif actuel hein, d'une lutte dans le système de santé, là, la santé publique là, qui vise en fait à avoir un système de santé qui est beaucoup plus inclusif. Là, ça, hein, c'est sur des années. Là. On disait ça en 2019, mais on disait ça en 2000, puis certaines en 1950. Mais malheureusement, ces personnes-là, dans le fond, les personnes marginalisées ou vulnérables, donc on parle ici, par exemple, de consommateurs, nos travailleurs du sexe, des personnes immigrantes, des personnes souffrant d'obésité, etc. Donc, toutes les personnes qui sortent un petit peu de ce qu'on va appeler comme les clients normaux, donc monsieur, madame, tout le monde qui viennent pour une douleur au genou ou un cancer. Donc, ces personnes-là vont continuer d'avoir des expériences qui sont négatives, qui sont désagréables, surtout qui sont nuisibles pour leur santé dans un système de santé actuel. Mm. Et notamment, ça s'explique par, en fait, les nombreux préjugés des acteurs sociaux et médicaux, autant sociaux que médicaux, là, vraiment. Donc, ça serait une première raison, vraiment, les préjugés. Un grand manque de formation, mais surtout de connaissances hein, actuelles des acteurs médicaux au sujet des populations vulnérables et marginalisées. Vraiment un point important. Donc, je pense que tu sais des heures de radio comme ça, là, ça peut aider aussi. Les soins obtenus aussi, ils ne vont pas nécessairement correspondre aux besoins réels des clients marginaux. Donc, par exemple, là, je vais prendre l'exemple encore une fois du travailleur du sexe qui souhaiterait, par exemple, obtenir une consultation pour des douleurs abdominales. Il irait voir son médecin. Il se ferait presque automatiquement dire, en fait, qu'il a attrapé une IPSS ou si c'est une travailleuse du sexe, bien, qu'elle est enceinte, de par les préjugés liés à son métier. Souvent, ils vont se faire faire la morale, les médecins traitants, là, on entend beaucoup, puis les infirmières, etc. Donc, et les investigations vont souvent être réduites là, à ces simples premières hypothèses-là pour en faire un temps de préjugés. C'est vraiment des études récentes là, qui ont sorti ça là, sur l'expérience des populations vulnérables en milieu hospitalier. Donc, voilà. Je pense aussi que d'autres éléments qui font que les personnes en situation de vulnérabilité ou marginalisées n'iront pas vers le système hospitalier, c'est le manque de temps de consultation. Tu sais, souvent, ça va être entre 15-30 minutes. Pour monsieur, dans tout le monde, souvent, ça fonctionne. Mais pour les situations où les personnes sont vulnérables, ben, ça va nuire au développement d'une relation hein, de confiance entre l'intervenant médical et la personne. Et qui dit marginalisation hein, du besoin d'être en confiance. Il y a peut-être ça qui vient nuire aussi. Mm-hmm. Puis, même les soins médicaux peuvent parfois être très, entendu dernièrement, là, très intrusif, excusez-moi. Ceux et celles là, qui sont vraiment des conditions particulières. Ils sont souvent intrusifs ou mal adaptés à ces situations-là. Un autre exemple que je donne parfois en conférence, c'est un jeune qui sortirait, par exemple, d'un réseau de prostitution, qui pourrait être très, très, très réticent à se faire toucher, à se faire approcher. Ça pourrait même raviver certaines expériences traumatisantes de se faire toucher, de se faire approcher par quelqu'un qu'elle a rencontré à peine 15-30 minutes. Donc, en fait, pour toutes ces raisons-là, puis encore bien d'autres, je pense que les personnes vulnérables, marginalisées, bref, ils vont moins aller consulter que les autres personnes de la population générale. Ils ont aussi moins le réflexe d'aller consulter. Parfois, ils n'auront même aucun papier officiel, on a vu ça. Ils ne peuvent même pas opter là, pour vraiment le parcours classique de notre système de santé et services sociaux. Puis, encore une fois, là, je leur dis un petit peu, mais dis ne pas aller consulter, dis donc, les problématiques qui vont s'installer en santé mentale ne seront pas adressées, ne seront pas identifiées. Et donc, on a un plus grand risque de souffrir, mais surtout de se maintenir. Je pense que c'est ça le plus grand problème sur le long terme dans des situations desquelles pourrait découler l'anxiété, la dépression, mais surtout beaucoup d'autres troubles en santé mentale.
C'est vraiment intéressant et très complexe.
Oui, vraiment, vraiment.
Puis, ton projet de maîtrise, en fait, traite davantage justement des troubles d'adaptation chez les jeunes qui sont en situation de vulnérabilité. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus, puis surtout pourquoi ce serait important justement de s'intéresser sur cette population-là cible précisément.
Oui, mais ça fait du sens avec ce qu'on vient de dire là, justement. En fait, si je fais un petit très, très brièvement mon mémoire, là, il traite vraiment des points tournants, donc de leurs interactions avec la trame identitaire des jeunes adultes. Vont s'identifier, eux, subjectivement, comme étant en situation de vulnérabilité. Donc, c'est des jeunes adultes en transition à la vie adulte, qui vont être âgés entre 18 et 32 ans, et qui, eux, subjectivement, ce que je veux dire, c'est qu'eux ont l'impression d'être en situation de vulnérabilité. Donc, on observe à travers leur verbatim ou leur récit de vie, si vous voulez, comment les points tournants, donc des points importants, par exemple, partir de chez ses parents ou avoir qu'une agression sexuelle, dépend de la personne, comment ça peut toucher vraiment leur trame identitaire des jeunes adultes. Puis pourquoi moi je vise les jeunes adultes? Ben, pour plusieurs raisons. les points tournants, on en a tout au long de notre vie, mais on en a quand même une grande concentration de points tournants pendant la transition à la vie adulte. Donc, inévitablement, on a plus de possibilités justement pour l'adulte en émergence de se retrouver en situation de déséquilibre ou d'inadaptation lors de cette période-là de la vie. Donc, par exemple, c'est beaucoup les moments des premières fois. Hein. Premiers emplois, la première fois qu'on habite chez nos parents, la première fois qu'on sort d'un système scolaire qui est très cadré. Donc, on vit beaucoup de premières fois qui peut créer des déséquilibres ou des difficultés d'adaptation. Donc, vous comprendrez qu'en psychoéducation, ça fait du sens. Hein. Aussi, je pense que les chercheurs s'intéressent de plus en plus à cette branche d'âge-là. Mais il y a moins de stratégies d'intervention, proprement parler, là, vraiment pour cette clientèle-là. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on va entendre des programmes jeunesse. Donc, c'est des programmes 0-18 ans. Ou en santé mentale adulte. C'est du 18 à 100 ans. Mais il existe vraiment 5 cycles de la vie. Là. Donc, l'enfance, par exemple, ça correspondrait à une période qui irait de la naissance jusqu'à 14 ans. L'adolescence de 15 ans à 24 ans. L'âge adulte de 25 à 64 ans. On voit vraiment que pour les aînés, 64 ans et plus. Donc, vous comprendrez qu'il y a vraiment, c'est vraiment important d'accroître les connaissances et les pratiques qui sont ciblées pour les différentes tranches d'âge. Et il n'y en a pas nécessairement pour la transition à la vie adulte et même pas un cycle qui est inclus initialement dans les cycles de la vie. Puis, il faut vraiment s'adapter au point tournant. Parce que qui dit point tournant, c'est vraiment, c'est très clair, là, mais les tranches développementales qu'il y a dans ces différents cycles-là. Vraiment s'assurer de mieux comprendre, de mieux intervenir là, dans les cycles. Puis, ce qui est lié justement à la santé mentale, donc on veut vraiment rester dans des pratiques, éviter d'être dans des pratiques très généralistes. On veut plutôt pouvoir spécifier puis adapter nos interventions selon la personne qui est devant nous, surtout selon vraiment la place qu'elle veut qu'on aille. Donc voilà, c'est pour ça que je m'intéresse à eux particulièrement. Je pense que c'est là qu'on a peut-être plus d'impact dans une vie. On en a beaucoup en jeunesse, mais attention, la vie adulte, c'est un moment très questionnant au niveau de l'identité. Les jeunes sont pleins de questionnements et ont besoin parfois d'être justement là, d'idées.
Puis en fait, là, tu parles justement que c'est des jeunes bon, qui subjectivement se retrouvent dans une situation, selon eux, de vulnérabilité, dans des points tournants, là, comme tu expliquais, où on peut souffrir un peu de troubles adaptatifs. Donc, est-ce que ça prend, est-ce que c'est certaines personnes qui sont peut-être plus sensibles à avoir de la difficulté dans ces moments tournants-là? C'est pourquoi certaines personnes vont vivre un peu les mêmes choses, mais ne vont pas nécessairement avoir besoin de rencontres, justement, comme ça, avec des psychoéducateurs? Ou est-ce que vous êtes capable d'expliquer un peu les paramètres qui sont en cause là-dedans?
C'est une très, très bonne question, mais je crois que tout est une question d'individu, encore une fois, et de bagage. Donc, nos pratiques sont autant en santé hein, physique que mentale, ou en peu importe les acteurs psychosociaux ou médicaux. Nos pratiques sont très généralistes, ce qui est très normal, mais les individus qu'on rencontre, on est avec un bagage, donc des difficultés, mais aussi des capacités, donc ils sont capables ou non d'affronter les aléas de la vie. Hein. Donc, par exemple, une transition, ça peut très bien se passer pour quelqu'un et non pour l'autre personne. Tout est une question de sens ou de conception qu'on va se faire de la vie autour de nous. Aussi, toute l'espèce de filet de sécurité, si vous voulez. Donc, les gens de notre entourage. Donc, qui on a autour de nous? Est-ce qu'ils sont prêts à nous aider? Est-ce qu'on a développé en bas âge des réflexes qui sont adéquats, je dirais, et qui sont suffisants surtout pour répondre aux besoins qui pourraient émerger? Donc, c'est toutes ces questions-là qui sont propres à l'individu. Donc, quand on rencontre la personne, on travaille avec la personne, mais beaucoup avec les perceptions, le sens qu'elle se fait du monde. Je donne beaucoup l'exemple, par exemple, de deux jeunes. J'aurais deux jeunes en transition à la vie adulte devant moi. J'en ai une qui... les deux personnes, moi, je les reçois, par exemple, un trouble alimentaire. Quand je leur demande leur récit de vie ou de me raconter l'historique, il y en a une qui va me parler toute sa vie du trouble alimentaire. Donc, par exemple, bon, ben, dans ma jeunesse, il s'est passé telle chose, puis là, ici, coupure se fait, là, j'ai un trouble alimentaire. Sa trame identitaire au complet va se baser sur le fait de la maladie. Donc, le sens, c'est très important pour cette personne-là. Le trouble alimentaire prend beaucoup de place, donc intervient d'une manière avec cette personne-là. Malheureusement, notre système est fait que j'interviendrai de la même manière, avec quelqu'un qui arrive dans mon bureau, le même diagnostic, qui porte malheureusement le même chapeau, qui pour elle, en fait, son trouble alimentaire est très ciblé sur une période X de sa vie. Ça n'a pas le même impact, la même importance. La personne va me parler de sa famille, de son chien, de ses vacances, de son programme d'études, de son emploi actuel, va me poser des questions sur plein d'autres choses. Donc, oui, le trouble alimentaire est présent, oui, le trouble alimentaire est important pour cette personne-là, il doit être traité, mais ne prend pas la même place. Et malheureusement, souvent, on va travailler de la même manière avec cette personne-là. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on travaille vraiment avec un individu et qu'il faut prendre le temps. Notre système n'est souvent pas fait là-dessus. Et il y a plein de raisons qui sont valables. Et malheureusement, on travaille vraiment avec des gens qui ont des bagages différents. Donc, voilà.
C'est super intéressant. Puis malheureusement, le temps file. Donc, c'est pas mal la fin de l'émission. Donc, je veux te remercier d'avoir participé puis de nous avoir un petit peu ouvert l'esprit aussi sur le rôle du psychoéducateur. Je pense que ça a tout à gagner d'avoir une place qui est un petit peu plus importante justement en première ligne, comme tu l'as bien expliqué. Puis, en fait, je te souhaite bonne chance avec justement la fin de ta maîtrise, de ton mémoire, puis la suite des choses aussi pour toi. Là. Donc, j'imagine que tu vas rester dans le milieu communautaire et pour la suite, exactement.
Merci beaucoup à toi.
Mais bonne journée.
Merci.
Cette émission est une initiative du Comité SPOT de l'Université Laval, affilié à la Clinique SPOT. En début d'émission, on vous parlait de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivé au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante aux déterminants sociaux de la santé à travers diverses activités. Merci à l'Association médicale canadienne pour son appui financier au projet. Merci pour votre écoute et à la prochaine!
Dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, Chiz 94.3 est fier de présenter, en collaboration avec CKUT 90.3, le concert rock metal noise du groupe Pangea de Futura. C'est un rendez-vous le dimanche 22 mai, 15h, à Victo. Pour plus d'informations, visitez le www.fimaev.qc.ca.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
The following program is a disturbing.
Trash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
D'écoute!
Resentful of the rental store, dismissed for stealing videos, and butter-kissed you cross the road, and called me from a